nous avons essayé de découvrir le principe de la causalité finale, c'est-à-dire ce qu'il y a de premier selon l'ordre de la fin. C'est beaucoup plus difficile à saisir que le point de vue de la cause formelle. Parce que la fin, c'est justement ce qui est au-delà de tout ce qu'on possède. La fin, comme fin, elle nous attire, mais on ne la possède pas, sauf évidemment quand on sera au terme. Mais tant que l'on vit, qu'on est in via, la fin, c'est toujours ce qui nous échappe. Alors, on aime tellement posséder qu'on essaie de comprendre ce qu'on possède de la fin, ce qui n'est pas la fin, mais ce qu'on possède de la fin. Et je crois que c'est très important de comprendre cela, parce que notre intelligence n'est pas un avoir. Si vous faites de votre intelligence un avoir, vous tombez dans la raison. La raison, c'est l'avoir de l'intelligence. Son co-possède. Alors que l'intelligence, elle est faite pour l'être. Et donc, on ne la possède jamais. Et ce qui est le plus ultime dans ma saisie de l'intelligence, c'est la fin. Je crois que c'est très important de saisir ça. Et Aristote l'a très bien saisi. Il a distingué l'entelekeia. Entelekeia, en un seul mot. Aristote a inventé deux mots. C'est toujours très intéressant, quand on est en face d'un philosophe, de voir ce qu'il a inventé comme mot. Ça prouve qu'il avait saisi quelque chose de propre qui, avant, n'avait pas été saisi. Et c'est pour ça qu'il invente un nouveau mot. En face de la théologie de Platon, qui est si puissante, c'est vrai, Platon, c'est un petit peu comme Hegel pour nous. Ça fait une synthèse merveilleuse, étonnante. Alors on se dit, après ça, il n'y a plus rien à dire. Alors c'est toujours, on pense toujours un peu à la petite fronde de David en face de Goliath. Platon, c'est Goliath pour la pensée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si je suis lucide en face de Platon, c'est la philosophie de l'avoir et pas la philosophie de l'être. L'être, vous ne le possédez jamais. Vous êtes possédé par l'être. Mais vous ne possédez pas votre être. Autrement, vous ne mourriez jamais. Si vous faites une méditation sur la bonne mort, ce que nous faisions au noviciat, régulièrement toutes les semaines avec un crâne devant nous. Méditation sur la bonne mort, c'était classique, hein. On ne l'a fait plus beaucoup. Le crâne, moi j'ai mon crâne, et puis je vois le crâne, je vais être comme ça, avec de grands trous, les yeux. Et c'était très bon pour voir la mort, on ne la possède pas, hein. Elle vient nous frapper. Tout d'un coup. La possède. Platon, c'est la philosophie de l'avoir. Quelle est votre plus grande richesse? Ce sont les idées. Il y a des gens qui sont pleins d'idées et qui déversent tout le temps leurs idées. Alors on leur dit, mais écoutez, très bien, vous vivez de vos idées, vous, très bien, mais moi je ne vis pas de mes idées, je vis de la réalité. Posez-vous la question, est-ce que vous vivez de la réalité ou est-ce que vous vivez de vos idées? Hein? Si vous vivez vos idées, Platon. Si vous vivez de la réalité, Aristote. Tiens. Platon, c'est un avoir extraordinaire. Et c'est vrai, chacun des dialogues de Platon, c'est un avoir. Il construit sa maison. C'est un avoir. Et il construit des maisons diverses. C'est un avoir. Alors, est-ce que la philosophie, c'est développer votre avoir? Ou est-ce que la philosophie, c'est de respecter ce qui est et de connaître ce qui est? La finalité, la fin, c'est justement quelque chose qu'on ne possède pas, mais qui nous attire. On ne le possède pas. On vit des intentions. La fin nous attire. Mais les intentions, c'est pas la fin. La fin m'attire, mais je la possède pas. Et c'est pas commode, hein, de vivre en pauvre, intellectuellement, de rien avoir. Parce que dès que vous avez quelque chose, vous devenez adversaire de l'être. Goliath, puissant, David, petite fronde. On lui dit de prendre une cuirasse, il la prend, oh non, ça m'encombre. Tout votre avoir vous encombre. Et l'avoir le plus magistral dans notre monde d'aujourd'hui, c'est les mathématiques. C'est un avoir parfait, extraordinaire. C'est un avoir reconnu par tout le monde. Voyez, c'est l'avoir de notre siècle. Et les mathématiques, par les mathématiques, vous possédez toutes les sciences. C'est extraordinaire, ça. C'est donc quelque chose de très important de comprendre l'avoir. Avec l'avoir, on pèse lourd. Dans les conversations, on reconnaît tout de suite le philosophe des avoirs ou de l'avoir et le philosophe qui essaie de comprendre ce qui est. C'est un petit examen de conscience très simple, hein, mais qui n'est pas commode. distinguer être et avoir. Et Aristote l'a fait merveilleusement. L'avoir le plus parfait, entelekeia. Alors, écrivez ça, c'est un mot grec, en telos ekein. On l'unit tout ça, ça c'est le génie d'Aristote, d'avoir uni ces trois. C'est l'avoir dans la fin. L'avoir dans la fin. Donc, on possède dans la fin. L'avoir dans la fin n'est pas la fin. C'est mon avoir dans la fin. Entelekeia. Et energeia. Energeia. C'est l'acte. Aristote a inventé un mot. Entelekeia n'existe pas chez Platon. Il y a chez Platon entelos et kein. Oui, ça existe, mais il fallait les rassembler. Entelekeia, celui l'avoir dans la fin. Moi, ça me fait toujours penser. C'est purement métaphorique, hein. Et c'est très métaphorique, mais on en a besoin, ça nous repose. Vous savez, un petit chat, vous grattez sur sa tête, hein, et puis quand c'est... Oh, entelekeia, il est dans sa faim, parce qu'il jouit. Chaque fois que vous jouissez, vous êtes... Entelekeia, l'avoir dans la fin. Alors, l'avoir est tellement puissant que la fin disparaît et vous ne regardez plus que Entelekeia. C'est très 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 joli, hein, de saisir ça. Et c'est... Bon, je crois que c'est ce qu'il y a de plus fin dans l'aristotélisme. Chez Aristote, c'est ce qu'il y a de plus fin. D'avoir découvert la différence entre entelekeia et energeia. Alors, voyez, on passe du grec au latin. Comment va-t-on traduire ça ? Actus. Les deux, entelekeia actus, energeia actus. Alors on confond la possession de la fin et la fin. Alors à partir de là, il n'y a plus de finalité. Vous êtes en face du gourmand. Le gourmand métaphysique, hein. Entelekeia, c'est ça qui est important. Parce que ça, je le possède. Energeia, je ne possède jamais, je suis pauvre. C'est très très important, ça, d'arriver à cette distinction. Là, je prends simplement ça. Ça, tout le monde peut. Quand on lit Aristote et quand on lit en grec, parce que si on le lit en latin, ça va plus. On le lit en grec. Alors, évidemment, on a dit actus premier, actus second. Oui. On a mis deux catégories dans l'acte. Hein. Actus premier, actus second. On a fait ce qu'on a pu. Mais on a mis le même mot. Et c'est pour ça que la causalité finale a été si vite perdue. Elle est perdue par le latin. C'est curieux. Hein ? On comprend les réactions des Grecs en face des Latins. Parce que C'est une confusion terrible, celle-là. Confondre entelekeia et energeia. Voyez, c'est se mettre dans l'impossibilité de saisir la cause finale comme cause des causes. Saisir la cause finale comme cause des causes, c'est saisir la différence entre l'avoir dans la fin, entelekeia, et la fin elle-même. La fin, vous ne la possédez jamais. Autrement, c'est plus la fin. C'est ça qui est extraordinaire. La cause formelle, vous la possédez. Et vous en faites une cause exemplaire. Pour lui donner deux coups d'encensoir. La fin, vous ne la possédez jamais. Autrement, ce n'est plus la fin. On l'aime. Ah, l'amour, entelekeia. Le bien, energeia. L'amour, c'est le fruit du bien. Le bien m'attire. Je l'aime. Il m'attire. Et l'attraction du bien, je la vis dans l'amour. Quand j'aime, je suis uni à mon bien. Et l'amour fait cette union avec mon bien. Mais l'amour n'est pas mon bien. Le jour où vous faites de l'amour votre bien, vous tuez le bien. Parce que vous restez dans l'immanence. Vous voyez, c'est le drame de tous les ménages, ça. C'est le drame d'un amour qu'on n'a pas éduqué. Alors, on ne comprend comme amour que ce qu'on possède. Et si on ne possède plus rien, on n'aime plus. Alors que la finalité reste. Et c'est ce point de vue de l'immanence de l'amour. L'immanence de l'amour peut être une terrible tentation de posséder l'amour. Je presse sur un bouton, j'aime. Je possède l'amour. Mais quand on possède l'amour, l'amour est extasis, extase. Il fait sortir de moi. Parce que quand j'aime, je ne me regarde plus. Je ne regarde que celui que j'aime. Quand vous commencez à regarder votre amour, vous n'aimez plus. Vous vous aimez. Vous voyez que là, on touche quelque chose d'extrêmement important. Au point de vue philosophique, hein. On touche quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand on dit ça va bien, oui, ça va très bien. J'aime. Et quand on aime, ça va toujours bien. Et qui vous aimez ? Vous ou le bien ? Ou l'ami ? Ah, je ne me suis jamais posé la question. Alors, quand vous ne sentez plus que vous aimez, l'ami n'existe plus. Vous tuez l'amour, vous tuez l'ami quand vous ne sentez plus de son amour. Alors que si vraiment vous aimez l'ami et que je ne sens plus son amour, je fais tout ce que je peux pour retrouver à son égard un véritable sentiment d'amour. Alors, je crois ça très important de bien distinguer chez Aristote. Après, on va voir ce que ça signifie. Hein. Distinguer ces deux expressions qui se traduisent tous les deux par « actus ». Et la scolastique a mis « actus premier », »,« actus second », parce qu'on peut en faire autrement. Mais il vaut mieux revenir au grec. Le grec dit parfaitement ce que c'est. « Entelekeia ». Alors, retrouver l'origine « entelos ». Telos, c'est la fin. Dans la fin, l'avoir. Quel est l'avoir dans la fin? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'avoir. J'aime. Et mon amour, c'est moi. C'est moi, son amour. Je le possède, mon amour. Et j'en suis très content. Cet amour fait que ça va bien. Je suis enveloppé d'amour. Ça va bien. Ah si je suis plus enveloppé d'amour, je suis sec. Ça va plus. Vous voyez, tout ça est très subjectif. Hein. Il faut le savoir. Il ne faut pas haïr le subjectif. Le subjectif, c'est très utile. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le bien. Energeia, l'acte, le bien qui m'attire. Alors, Aristote a fait cette distinction qui est capitale. Et des quantités de scolastiques n'ont plus fait cette distinction. La preuve, quand ils disent que la finalité est une cause métaphorique, c'est parce qu'ils ne regardent plus que l'avoir. Alors l'avoir, c'est une cause métaphorique. Oui, tout à fait. Vous la possédez. Ce n'est pas la fin. Alors, ceci va permettre d'essayer de voir toutes les fois que vous aimez. Faites la distinction pour l'amitié. Tu es mon ami. Vous insistez sur mon ami, tu es celui que j'aime. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je l'aime. Et ce n'est plus l'ami. L'amour peut devenir ce qui est de plus difficile à dépasser. L'amour passionnel, c'est comme ça, c'est ce qui est le plus difficile à dépasser. Parce que je le possède, et ça me met dans un état euphorique. Je suis dans un état euphorique quand je suis dans mon amour. Mais je n'atteins plus la fin. La fin, je ne la possède jamais. Elle m'attire. Elle m'attire, la fin. La fin... Je la possède en l'aimant. Entelekeia. Je la possède en l'aimant. Mais je fais grande attention. C'est pas mon amour qui m'intéresse. C'est la fin qui m'attire. C'est l'ami. Je peux très bien, vous allez comprendre ça, je crois tout de suite, je peux très bien aimer mon ami et être très heureux de l'amour que j'ai pour lui. L'amour que j'ai pour lui, je le possède. Je suis bien heureux. Mes béatitudes. Mais l'amour que j'ai pour lui provient de lui qui m'attire. C'est lui qui est cause de ça. Et donc, si je ne me regarde plus que moi-même, je me coupe de la source de l'amour. Et me coupant de la source de l'amour, très vite, l'amour disparaît. Je suis moi-même, je fais moi-même le suicide de l'amour, parce que je me regarde beaucoup trop. Je regarde tout le temps mes états d'amour. Je me suis bien levé ce matin, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur, c'est merveilleux. C'est une petite sainte merveilleuse aujourd'hui. Alors ça me fait joyeux. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui vous rend joyeux ? Ainsi, la petite sainte, c'est elle qui vous rend joyeux. C'est pas votre amour pour elle qui vous rend joyeux. Ah oui, c'est l'amour que j'ai pour elle qui me rend joyeux. Ah, c'est vrai. Mais attention, la source de cet amour, c'est elle. Autrement, je reste sur les faits. Ah, voilà le positivisme le plus terrible. C'est de confondre la source et les faits. Et quand vous confondez la source et les faits, vous restez dans l'entelekeia. Vous restez dans votre amour. Petit examen de conscience. Est-ce que vous aimez mieux l'ami ou votre amour pour votre ami? Alors vous allez dire, ah, moi, je ne fais pas la différence. Je ne fais pas la différence. Je l'aime. Et c'est moi-même que j'aime. Je suis heureux de l'aimer. Je ne fais pas la différence. Ah, très bien. Quand tout va bien, pas besoin de différence. Mais quand ça ne va plus, ah, à ce moment-là, il faut savoir comment on retrouve l'amour. Et on a quitté la causalité finale depuis 4 siècles. Point de vue philosophique, hein. On l'a quitté. Donc on a quitté la source de l'amour. Et on s'étonne que le monde n'aime plus. C'est quand même très important de voir d'où ça vient, ça. D'où ça vient pour nous. On ne s'est peut-être pas posé le problème jusque maintenant, ça se peut, ça. Parce qu'on... On était heureux. Et par le fait même, on est heureux. Hein. Tout est vu à travers ce bonheur. Mais attention, on va entrer dans la période des vaches maigres, de l'aridité, plus rien n'a de sens. Je suis complètement... C'est pas étonnant. Vous n'avez jamais aimé. Vous vous êtes aimé. Et vous avez tari la source de l'amour. Vous voyez comme c'est important d'arriver à cette distinction qui est au fond la distinction la plus profonde de l'aristotélisme. C'est là où Aristote se distingue de Platon. Et c'est très intéressant Aristote se distingue de Platon là, il se distingue de Platon aussi pour l'acuité, to ti en einain. Le to ti en einain est inventé par Aristote. Quidité. Alors, le mot quidité est employé même par Sartre, sans savoir que ce mot vient d'Aristote. Il devrait envoyer un coup de chapeau, Aristote. Je te prends le mot que tu as inventé. Et je sais que je le prends à toi. Quidité. Avant Aristote, on ne parlait pas de quidité. Totiainainai. Mais ça reste jusqu'à Sartre. Parce que la recherche de la causalité formelle y demeurait. On reste dans l'immanence. Alors évidemment, le toti enainain, le mot quidité chez Sartre, n'a pas du tout le même sens que le mot quidité d'Aristote, mais c'est le même mot. Le sort de la recherche de la cause finale est tout à fait différent. Sartre ne se sert pas de toti enena, du enkelegeia et energeia. C'est très curieux, ça. Il y a quelque chose là qui est très, très intéressant à remarquer. C'est que la causalité formelle, on a continué de l'utiliser. Et toutes les sciences sont fondées sur la causalité formelle. La ratio. Mais la ratio, la raison, a deux sens différents. C'est ou la raison, ou intellectus. Mais on ramène toujours à la raison. Le logos a deux sens différents. Univoque, équivoque. Quand il s'agit de la causalité, de la découverte de la causalité finale, très vite, on n'a plus regardé que l'ayance dans la fin, l'amour. On a regardé l'amour, on n'a plus regardé le bien. L'objectivité du bien a disparu devant la subjectivité de l'amour. Et c'est la subjectivité de l'amour qui a tout pris. Et par le fait même, on a considéré la causalité finale comme métaphorique. C'est très important de saisir ça. Parce que ça nous fait comprendre pourquoi, pour nous, c'est à la fois très simple de découvrir cette distinction d'Aristote. On la distingue tout de suite dans l'amitié. Deux types d'amitié. L'amour pour l'ami qui domine. L'amour pour moi qui domine. L'amour pour moi qui domine, c'est l'amour passionnel. L'amour pour l'ami qui domine, c'est l'amour véritable, spirituel, intellectuel de mon ami, de ma partie spirituelle. Vous voyez, je sais que j'ai les deux en moi et que très souvent, dans l'amour, l'expérience passionnelle de l'amour l'emporte sur l'expérience spirituelle de l'amour. Et c'est important de voir comment l'expérience passionnelle de l'amour fait que je me retourne sur moi, l'expérience spirituelle de l'amour fait que je me dépasse. L'immanence prend le point de vue passionnel et l'immanence de l'amour, passionnellement, est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors que l'amour réclamerait la saisie de la transcendance. C'est par l'amour que je me dépasse. C'est par l'amour que j'atteins le transcendant, le bien. Alors, réfléchissez là-dessus, parce que c'est capital. Hein. C'est là où Aristote nous aide. Hein. On se sert d'Aristote, parce qu'il a dit les choses en premier lieu. C'est lui qui a découvert ça avant. Je ne crois pas qu'il est né avant lui. Il a découvert ça, et c'est l'arme la plus terrible contre Platon. C'est le petit caillou de David sur Goliath, sur la tempe. Alors, la saisie du principe va se faire, du principe de la finalité, va se faire là. L'amour est ordonné à l'ami. L'amour se perfectionne, s'actue, augmente toujours si l'ami est de plus en plus aimé. Donc, il y a le jeu de ce qui est en puissance à l'égard de ce qui est en acte. À son sommet, ce qui est en puissance à l'égard. Et je peux descendre alors à toutes mes expériences. Je vois que toujours, ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Le parfait. Ce qui est en puissance, c'est-à-dire imparfait, inachevé, qui demande d'être achevé, est ordonné vers celui qui l'attire, qui est parfait, qui est en acte. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Voilà la saisie du principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui en acte. Vous voyez, c'est encore la saisie de l'ordre. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui en acte. Dans la saisie de la substance, c'est-à-dire de la cause formelle de ce qui est, dans la saisie de la substance, je suis arrivé à ce fait que la substance peut se dire de deux manières, la quidité et le sujet. J'ai donc deux déterminations substantielles de la réalité. Et ces deux déterminations substantielles de la réalité demandent d'être dépassées par le principe selon la forme de ce qui est. Alors, est-ce l'acuité qui est ordonnée à la réalité existante, ou est-ce que c'est la réalité existante qui est ordonnée à l'acuité? Et deux modalités de la substance. Substance première, substance seconde. Et on voit bien que l'ordre entre les deux est réciproque. Je ne peux pas dire la quidité est toujours ordonnée à l'individu. Oui, du côté existentiel. Mais du côté de l'intelligibilité, c'est l'inverse. C'est curieux. Il y a donc deux ordres. Est-ce que dans l'acte, je trouve la même chose? Et ceci, c'est toujours pour mieux saisir le principe, le dépassement de ce que j'expérimente. J'expérimente dans l'amour l'entelekeia et l'energeia, l'avoir et le bien. Alors, est-ce que le bien est ordonné à l'avoir? Est-ce que l'avoir est ordonné vers le bien? Cet ordre. Je vois que l'ordre du côté de la causalité formelle est un ordre qui est réciproque, alors que du côté de la causalité finale, cet ordre n'est pas réciproque. C'est très intéressant, ça. Oui, des deux côtés, l'ordre est capital, toujours. Mon intelligence ne peut avancer que lorsqu'elle saisit l'ordre. Et quand elle saisit un ordre qui est réciproque, l'intelligence risque de ne pas dépasser cet ordre. La substance peut être prise comme l'acuité, comme l'individu. Et acuité et individu n'est pas le principe selon la forme de ce qui est. Et il y a cet ultime dépassement. Dans la recherche de l'acte, dans la recherche de la causalité finale se présente à moi de deux manières. Entelekeia, energeia. Est-ce l'energeia qui est ordonnée à l'entelekeia, ou est-ce que c'est entelekeia qui est toujours ordonnée à l'energeia? Et je vois donc que lorsqu'il s'agit de la finalité finale, c'est toujours l'amour qui est ordonné vers le bien. C'est pas le bien qui est ordonné vers le bien, l'amour. Le bien attire. C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est très, très important de le saisir. Parce que ça me montre que la saisie du principe selon la finalité a une pureté plus grande que le principe de la substance. Tous les deux sont très importants pour saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, selon la causalité formelle, selon la causalité finale, puisque c'est les deux principes que je saisis, substance et fin. Il n'y a pas trois principes de l'être, il n'y en a que deux. L'être est forme, l'être est acte. Et premièrement, forme, forme substantielle. Secondairement, acte. Vous voyez ? L'acte énergéia est ultime. L'acte n'a pas besoin pour exister de son effet. Il peut y avoir un pur amour. Et avoir un pur amour, c'est ne regarder que le bien qui m'attire et non pas l'effet du bien sur moi. Tandis que il n'y a pas pure intelligibilité sans l'individu qui existe. Il n'y a pas pureté de l'individu qui existe sans l'intelligibilité. Ils sont mutuels. Au fond, pourquoi ça ? C'est intéressant à remarquer pourquoi. C'est que la substance, elle est saisie dans l'immanence. L'acte fin est saisi dans la transcendance. La transcendance peut seule être tout à fait pure. L'immanence comme telle n'est jamais tout à fait pure. Besoin des deux. Et ceci fait comprendre, du moins nous aide à saisir, combien le point de vue de la cause finale est difficile à saisir. Il faut une très grande pureté de l'intelligence pour saisir le bien, cause finale, qui m'attire. L'attraction que j'ai vis-à-vis de la cause finale est tout entier dépendant de la cause finale. Cette attraction, très bien, mais je n'ai pas besoin de cette attraction pour comprendre le bien. Ça m'aide. Ah oui, ça oui. Mais le bien est ce qui m'attire. Il est premier. Alors, chaque fois que je découvre un ordre entre l'imparfait et le parfait, tout ce qui est imparfait est ordonné au parfait. Et saisir tout ce qui est imparfait est ordonné au parfait. C'est la saisie du principe de la cause finale. Alors vous le saisissez selon des modalités diverses. Et la modalité ultime, c'est à l'égard de l'amour. Entelekeia energeia.